Bonjour et bienvenue à Audi Droit, la seule plateforme sur laquelle on fait du droit, on apprend du droit tout en rigolant. J'espère que vous allez bien chez vous. En tout cas, moi, ça peut aller malgré le corona et le confinement. Notre hôte aujourd'hui, c'est Monsieur Malonda Shams, Master 1 Droit Public Recherche. Oui, Master 1 Droit Public Recherche. On ne tarit pas d'éloges à son égard. C'est quelqu'un de... un couteau suisse, comme on dit. J'aurais même bien voulu lui donner le surnom de la compétence universelle. Mais bon, c'est celui de Monsieur Aura déjà. Donc, Monsieur Aura, big up. J'espère que vous nous écoutez. Donc, Monsieur Malonda Shams. Qui est Monsieur Malonda Shams? Pourquoi le droit? Pourquoi l'université Omar Bongo? Est-ce que ça n'a pas été difficile? Voilà, on veut tout savoir.
Bonjour, chers auditeurs. Et merci encore à vous, Monsieur Kevis, de m'avoir invité sur ce plateau. Mon nom, Mbuga Malonda. Mon prénom, Shams. J'avais jamais vu Libreville, mais grâce au bac, j'ai pu y atterrir.
Voyage grâce au bac.
En tout cas. Si on m'avait dit que je devais faire droit, je ne sais pas trop ce que j'aurais répondu. Laissez-moi vous dire qu'est-ce qui m'a amené à choisir le droit. En troisième, on nous avait remis des fiches d'orientation pour savoir quelles devaient être nos perspectives d'avenir. Et lorsqu'on m'avait remis ma fiche, je l'avais regardée et je ne savais vraiment pas quoi choisir. Si bien que je l'ai juste mise de côté. Je suis parti regarder les autres et j'ai posé la question à celui que je pourrais considérer comme mon meilleur ami, M. Mitogo Mombemba Rodrigue. Je lui ai dit, toi tu veux faire quoi dans la vie? Il m'a dit droit. J'ai pensé à ce qu'on fait en droit, pratiquement l'avocature. J'ai dit, ok, moi aussi je vais faire droit. Alors, j'ai coché droit. Le parcours disait LEA1 pour finir en droit. J'ai coché la même chose. J'arrive à la maison, maman me pose la même question. Tu veux faire quoi dans la vie? J'ai dit à maman, je vais faire droit. Malgré ça, je n'avais pas la conviction dans le cœur. Hein. C'était juste...
sans aucune conviction.
C'était juste pour fuir la question. La semaine qui a suivi, mon grand frère m'interrogeait et me posait la même question. Tu veux faire quoi dans la vie? J'ai dit, grand frère, je vais faire droit. Il m'a dit, droit, quoi? Oh, je vais être avocat. Quoi, tu aimes ça? Oui, j'aime défendre les gens parce que j'aime pas voir les gens opprimés. J'ai répondu ça. Si bien qu'après mon bac, je suis venu m'inscrire au département de droit. Je voulais pas aller faire droit dans une école parce qu'on m'a dit la base, c'est à l'université, dans la faculté. C'est là où on obtient les bonnes facultés. Alors, je suis venu m'inscrire à la faculté de droit et des sciences économiques de l'université Omar Bongo. Et aujourd'hui, je me retrouve en droit public simplement parce que j'aime l'État. Tout ce qui touche à l'État m'intéresse.
D'accord. J'aimerais souligner que M. Malonda, je l'appelais l'État. Parce qu'un jour, il m'a dit, on ne doit pas critiquer la seule personne susceptible de nous aider. On doit se départir de toute critique pour avoir un esprit critique. Je pense que c'était ça. D'accord. Monsieur Malonda va nous parler aujourd'hui de la souveraineté. Vous l'aurez compris, qui de mieux qualifié qu'un étudiant en droit public pour nous parler de la souveraineté? C'est un sujet fondamental en droit public. Je me trompe?
Vous avez tout dit. La souveraineté. La souveraineté est une notion fondamentale en droit public parce qu'il faut le dire, le droit public, c'est le droit qui s'impose à l'État. Si on parle du droit qui s'impose à l'État, et l'État, souvent certains confondent l'État avec la souveraineté. C'est bien, quand on parle de souveraineté, on parle d'État. On dit d'ailleurs que ce sont signes distinctifs. Pour vous expliquer ce qu'est la souveraineté, je voudrais vous le faire suivant, on va dire, un plan bien déterminé. On va d'abord définir ce qu'est la souveraineté. On va donner les caractères de la souveraineté, on va donner les faces de la souveraineté et on va éventuellement voir certaines limites de la souveraineté. Savoir si quelle est la portée de ce qu'on entend par souveraineté. La souveraineté est le principe de l'autorité suprême. Cette définition n'est peut-être pas saisissante pour tout le monde. Aussi, je vais faire appel à celui que l'on appelle le père, sinon le théoricien même de la souveraineté, à savoir Jean Baudin. Dans son traité Les Six Livres de la République, publié en 1576, Jean Baudin fera de la souveraineté l'attribut essentiel de l'État. Il nous dira que la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. Aussi, on dira qu'il n'y a pas d'État non souverain. Parce que l'État, c'est la souveraineté.
C'est l'un des caractères essentiels de l'État.
Effectivement. C'est dans cette perspective qu'un auteur classique, Adhémar Hiesemann, dira que l'État se confond avec la souveraineté, celle-ci étant sa qualité essentielle. Vous pourrez retrouver cette citation dans son ouvrage « Éléments de droit constitutionnel français et comparé » tome 1, « La liberté moderne, principes et institutions » 8e édition et 8e édition aux éditions Ciré, page 1, publiée en 1927. Voici avec quelques mots et quelques citations ce qu'est la souveraineté. Une puissance absolue et perpétuelle de l'État. C'est rattaché à l'essence même de l'État. Ôter la souveraineté à un État, c'est faire disparaître cet État. Mais comment se caractérise cette souveraineté? On peut donner plusieurs caractères à la souveraineté. On comprend premièrement que c'est un pouvoir suprême. Parce que ce pouvoir, il est élevé au-dessus de tout. On dit d'un État qu'il est souverain lorsqu'il n'est soumis à aucune autorité, aussi bien physique que religieuse, sinon divine. Et bien évidemment, sa suprématie se manifeste sur un territoire. La souveraineté est une puissance de commandement public. On ne commande pas un individu, mais on commande l'entièreté de la société, sinon l'entièreté de la nation. La souveraineté est une puissance, c'est un pouvoir indivisible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la souveraineté est rattachée à l'essence de l'État. Si on détache la souveraineté de l'État, on tue l'État. On fait cesser d'exister un État. La souveraineté, c'est un pouvoir perpétuel et inaliénable. La souveraineté vit aussi longtemps que l'État vit lui-même. Aujourd'hui, on dit que l'État ne meurt pas avec cette célèbre citation. Le roi est mort,
vive le roi.
Des gouvernements passent, mais l'État reste.
Et la souveraineté aussi.
Et la souveraineté, elle demeure, bien évidemment. Voici quelques caractères de la souveraineté. Comprenez-le, dans un État, seul l'État est souverain. Et des membres de l'État ne sont pas souverains. Il y a juste une portion de la souveraineté, mais c'est l'État en lui-même qui est souverain. Parlons des faces de la souveraineté. Prenons cette citation de Carré de Malberg qui dira « La souveraineté est une summa potestas à deux visages. » J'aimerais mieux dire « La souveraineté est un dieu Janus parce qu'elle a deux visages. » Ambivalente donc. On parle de souveraineté dans l'État ou encore la souveraineté interne et souveraineté de l'État. On parle de souveraineté donc externe. Mais qu'est-ce qu'on entend par souveraineté interne et par souveraineté externe? La souveraineté interne signifie que tout État dispose de l'autorité exclusive sur son territoire et la population qui s'y trouve, et aucun État ne s'immisce dans les affaires internes d'un autre État. Ça veut dire que sur son territoire, c'est l'État qui jouit de l'autorité tout entière. Il édicte les lois, il fait exécuter ses lois et il juge même ses lois. Il dispose, comme il dirait, des trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir judiciaire. Et sur ce territoire, il est le seul à commander. C'est pourquoi cette souveraineté s'accompagne d'un principe que l'on retrouve dans la Charte des Nations Unies, article 2, paragraphe 7. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Les étudiants en relations internationales s'y retrouvent et se réjouissent certainement. S'agissant de la souveraineté externe, elle signifie qu'aucun État ne reconnaît d'autorité au-dessus de lui et tout État reconnaît tout autre État comme son égal. Ça veut dire que tous les États sont au même pied d'égalité.
Ni vassal, ni féodal.
Effectivement, je vois que vous avez un soupçon de crème intellectuelle.
Un soupçon de sarcasme.
Aussi, la société internationale, toujours dans la Charte des Nations Unies, article 2, paragraphe 1er, a consacré ce qu'on appelle le principe d'égalité souveraine des États. Une égalité qui, on va le dire, est plus de droit que de fait. Sinon, relève de la fiction juridique. Vu que, en regardant la société internationale et sinon les relations internationales contemporaines, on va s'apercevoir qu'il y a des grands États et il y a des petits États. Des Suds ont du mal à parler devant des Nords. Ah, étudiants de terminale, je sais que vous vous retrouvez facilement. Voici évincer certains points sur la souveraineté. Vous en trouverez d'autres. Quand on parle de souveraineté populaire, la souveraineté appartient au peuple. Ou souveraineté nationale, la souveraineté appartient à la nation.
Monsieur Malanda, vous nous avez donné quelques éléments sur la souveraineté. Si j'essaie de résumer, vous avez parlé de la définition de la souveraineté, vous avez caractérisé la souveraineté. Et
j'ai classifié la souveraineté.
Et on a envie de savoir réellement, la souveraineté est-elle, c'est vrai, elle est perpétuelle, mais est-elle illimitée? N'a-t-elle pas de limite, la souveraineté?
Oui, effectivement, je l'avais abordé même d'entrée de jeu, nous devions parler des limites de la souveraineté. La souveraineté, elle n'est pas illimitée. Quand un État est souverain, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, comme il le veut. Sur son propre territoire, les normes d'ailleurs qu'il indique limitent sa souveraineté.
Tu parles ici des limites internes.
Des limites internes.
D'accord.
Sur le plan international, les traités auxquels il est parti, les conventions, les engagements internationaux auxquels un État est parti, limitent là encore sa souveraineté.
Limite externe.
Limite externe.
D'accord.
Sur le plan interne, on peut bien évidemment prendre la Constitution. Dans cette définition que j'aime bien de Dominique Rousseau, il dit que c'est l'acte des citoyens. Un État est souverain, mais avec cette mondialisation de l'État de droit, l'État doit se soumettre au droit qu'il a édicté. Et non seulement il doit se soumettre à ce droit, il doit respecter les droits et les libertés fondamentaux des individus. Car la Constitution consacre aussi bien les droits de l'État que les droits des individus.
D'accord. Donc, si j'essaie de comprendre, les limites de la souveraineté de l'État relèvent plus de l'auto-limitation interne et de l'auto-limitation externe en réalité.
Tout à fait. C'est l'État lui-même qui consent à limiter son autorité et son pouvoir.
Est-ce que le droit international ne l'y oblige pas en quelque sorte?
Non. Le droit international ne lie pas l'État à le faire. Il y a un auteur qui disait: le conservatisme, c'est aussi une manière d'être en relation internationale. Comme l'autarcie est une manière d'être en relation internationale. Un État peut décider de rester seul sur son territoire.
Mais on nous a montré qu'on ne peut pas vivre comme une nomade isolée.
C'est justement cela. C'est le besoin de quelque chose ou le besoin de résoudre un problème, peut-être politique, peut-être économique ou autre, qui conduit l'État à se rapprocher des autres États, à entrer dans la discussion internationale avec les autres. Et quand on entre dans une société, il faut le dire, on ne peut plus se dire que l'on commande. Mais c'est la volonté de tous qui commande dans une société.
D'accord. Vous l'aurez compris, la souveraineté peut être imprescriptible, impersonnelle, et je sais pas quoi dire encore, perpétuelle. Mais la souveraineté a aussi des limites. La souveraineté a des limites. Des limites, qu'elles soient internes ou externes, en tout cas, la souveraineté a des limites. Monsieur Malonda, maintenant, c'est la phase question-réponse. Habituellement, je pose 2-3 questions. Mais sur la question de la souveraineté, il y a une question polémique qui tourne. Et j'aimerais vous la poser si vous n'y voyez aucun inconvénient. Les États africains, l'Afrique noire francophone, les États africains sont-ils souverains au regard de tout ce que vous venez de dire, à l'égard de la souveraineté?
Au regard de tout ce qu'on vient de dire sur la souveraineté, je peux le dire, et même sans réserve, les États africains, sinon d'Afrique noire, sont souverains. Pour une petite illustration, l'article 3 de la Constitution du Gabon nous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce directement par le référendum ou par l'élection selon le principe de démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles, et nul ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Les États sont souverains. Qui pourrait douter de la souveraineté d'un État? Douter de la souveraineté d'un État, c'est douter même de cet État.
Mais monsieur Malonda, je pense que c'est Charles de Gaulle qui disait qu'il faut séparer l'esprit du texte. Et, comme on le dit communément, tout ce qui est écrit doit être sujet à interprétation. La souveraineté existe de fait.
De fait, ou de droit, voulez-vous?
De droit. Mais est-ce que elle se manifeste réellement, la souveraineté des États africains?
La souveraineté des États africains se manifeste réellement? Pourquoi en douter? Vous montrez une manifestation de cette souveraineté. Je vais vous prendre ce qui a été délibéré lors de la COP 21, sinon 22, si ma mémoire me joue des tours. Les États du monde entier se sont réunis pour réduire la production de gaz à effet de serre à 0,2. Mais cette conférence des parties, COP, s'étant déroulée sur le territoire du roi du Maroc, celui-ci va retorquer en disant: mais nos pays du Sud, on ne peut pas réduire notre production de gaz à effet de serre à 0,2 vu qu'on ne produit déjà rien. Et l'environnement que l'on essaie de protéger est pollué plus par vous. Pourquoi ne pas juste vous limiter et nous laisser de poursuivre avec nos petites industries qui ne produisent quasiment rien? L'exemple ne s'y est peut-être pas parce qu'on est dans l'Afrique blanche, mais je vais encore vous prendre une autre illustration. Il y a eu des petits mouvements sur notre territoire ici, durant la dernière élection. En griffe, certains nous disaient qu'il y avait des cadavres au sous-sol de la démocratie. Et les autorités pénales internationales ont voulu venir faire des investigations sur le territoire. Mais notre très cher pays a brandi le principe de non-ingérence dans les affaires internes. Car selon la souveraineté interne d'un État, aucun autre État ne peut s'ingérer dans les affaires d'un autre État.
D'accord. En parlant de COP 21, COP 22, déjà je suis climato-sceptique. Je pense que la protection de l'environnement est une manière de freiner l'Afrique dans la course au développement. Conception personnelle, opinion. C'est ce que je pense. Et les États africains ne manifestent réellement pas leur souveraineté au niveau international. Conception personnelle aussi. Lorsqu'on vous demande de réduire vos productions de gaz à effet de serre à 0,2, vous ne produisez absolument rien. Vous n'avez pas d'industrie. Comme au Gabon, entre griffes, Mais lorsque vous participez à la quête, je vais appeler ça comme ça, orchestrée par les pays du Nord, vous encouragez le mépris qu'on a sur vous. Pour moi, ce n'est pas de la souveraineté.
Il faut le dire, ce n'est pas un encouragement qui se déroule, mais c'est simplement une responsabilité de la société internationale. On a beau ne pas être responsable de la détérioration, sinon de la dégradation du milieu, mais il importe que l'on préserve ce milieu. Non seulement pour les générations présentes, mais pour les générations futures.
Pour un pays qui ne produit absolument rien, c'est quand même curieux.
Cela ne dépend pas de notre production, mais cela dépend... Dépendre même, c'est le terme peut-être ne s'y est pas. Mais c'est dans un souci de protéger.
Mais
on n'est pas responsable pour avoir détérioré. Mais on est responsable pour freiner cette détérioration.
Mais lorsque les États-Unis et la Chine, premiers producteurs, refusent de réduire leur production de gaz à effet de serre, et le Gabon accepte, vous ne voyez pas que ces deux poids, deux mesures, c'est compliqué. Je ne trouve pas les termes exacts.
On dit la meilleure façon d'apprendre quelqu'un à respecter ce qui a été édicté, c'est de commencer à obéir soi-même.
Je pense que c'est de la soumission. Après, conception personnelle. Vous l'aurez compris, la souveraineté, c'est quelque chose de délicat. J'étais avec Monsieur Malanda Shams, Master 1, droit public. Passé à l'université Omar Bongo, si vous avez besoin de lui. C'est pas de la publicité, hein. Non. C'était juste pour dire. Alors, Monsieur Malanda, un dernier mot sur la souveraineté. Parce qu'on a une troisième rubrique, bien sûr.
La souveraineté, c'est la souveraineté.
On n'aurait pas pu dire mieux. Ok. La troisième rubrique, c'est l'humour juridique. Est-ce que les étudiants de droit sont drôles? C'est la question. C'est même l'objectif des podcasts. C'est l'objectif de Audi Droit. Le droit dans l'humour, on en rigole. Hein? On ne reste pas cloîtré dans des notions théoriques. Hein? Il faut aussi essayer de... Voilà, faut rire. Donc, Monsieur Malanda, on se posait la question. Est-ce que vous restez cloîtré dans vos livres et vos cahiers, dans vos cours, dans vos fascicules? Est-ce que ça ne vous arrive pas de rigoler? Vous ne regardez pas la famille Kardashian? Vous ne... Voilà, Yaya Vincenzo, est-ce que vous connaissez, etc., Créole? La Chizai, tout le monde, voilà. Est-ce que vous ne restez que dans votre carcan? Vous avez de l'humour? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Premièrement, nous allons vous demander de nous faire une blague sur la souveraineté ou sur n'importe quel sujet de droit.
On dit que la blague ne fait pas sérieux. Toutefois, je vais m'essayer. La souveraineté, c'est l'été du souverain. Mais quand vient l'hiver, il n'est plus. C'est-à-dire que le souverain d'aujourd'hui peut ne plus l'être demain.
D'accord. En tout cas, pour être une blague, c'est une blague. En tout cas, c'est sûr, la souveraineté, on rigole pas souvent. Vous n'en avez pas une autre?
Si l'on veut vraiment être souverain, soyons comme... Le camarade remet sans Crusoé sur son île, mais sans vendredi. Pour ceux qui se rappellent de cette aventure, c'est un homme qui a atterri dans une île et qui, à un moment donné, a décidé de dicter un code de l'île. Mais il était le seul sur l'île. Donc il était à la fois l'État et son propre sujet. Il dit, tu ne feras pas ceci, mais demain c'est lui qui fait cela. Vraiment, la souveraineté, c'est mieux sur une île. Tout seul. Pour finir, je ne suis pas très drôle, mais toutefois. Connaissez-vous le meilleur valet qu'un souverain puisse avoir chez lui? Vous, Monsieur Kevis?
Non, pas du tout.
C'est quand même bizarre. Eh bien, c'est lui-même. Pourquoi lui-même? Parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Je finirai par là.
D'accord. Bon, monsieur Malanda, ce qu'on a omis de vous dire, c'est que la rubrique humour juridique, ben, c'est moi qui la clôture en vous posant deux petites questions. Vous êtes en droit public. Un publiciste est bloqué en bas de l'immeuble. Pourquoi, selon vous?
Je sais pas prendre l'ascenseur.
C'est votre réponse.
Il connaît pas la route de l'escalier.
Bah, il a oublié le code.
Ça, j'avais pas fait attention.
Le code général des impôts.
Ah, fallait me dire qu'il était à la DGI.
En tout cas, monsieur, on était avec monsieur Malanda Shams pour vous parler de la souveraineté. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser sur le blog. On en discute. Si vous voulez améliorer des trucs, si vous voulez participer, n'oubliez pas de vous manifester. Merci d'avoir écouté Audit 3. Un spécial. N'oubliez pas, gardez le sourire.